Music du Monde, Laurence Alloa, Tegi Mfatrore. Music du Monde sur RFI.
Il n'y a que la lumière, mais les gens regardent par la lumière. Il n'y a que la lumière. La lumière est la base de tout. Nous sommes noyés dans la lumière, mais avec des lunettes noires.
Élégant, crépusculaire, les adjectifs ne manquent pas pour évoquer Leonard Cohen. La journaliste anglaise Sylvie Simons lui a consacré une biographie de 600 pages, très documentée, qui raconte la vie et l'œuvre de l'artiste canadien, avec ou sans lunettes noires. Sylvie Simons est notre invitée et elle assure la programmation musicale de cette émission. Elle sera traduite par Michel Mella.
If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you want to take me for a ride, you know you can. I'm your man. Are the moons too bright? The chains too tight? The beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd clog your heart, and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man.
I'm Your Man, signé Leonard Cohen. Et pour parler de Leonard Cohen, nous recevons Sylvie Simons et Michel Mella qui va la traduire. Sylvie Simons, qui est anglaise, qui vit sur la côte ouest des États-Unis, qui est une grande journaliste musicale, qui rencontre à peu près tout le monde, de Tom Waits à Leonard Cohen, en passant par Marianne Faithfull. Il se trouve que Sylvie est l'auteur d'une magnifique biographie sur Leonard Cohen qui s'appelle I'm Your Man, la vie de Leonard Cohen. Une biographie qui est sortie en 2012 et qu'on récupère en version française quelques années plus tard, en 2018, une biographie qui a fait le tour du monde, parce qu'il y a plus d'une vingtaine de traductions. En commençant par I'm Your Man, est-ce que vous vous souvenez de cette période et quels étaient vos rapports avec Leonard Cohen au moment où I'm Your Man sort sur le marché, c'est-à-dire en 88?
Ah, when I'm Your Man came out.
Quand le disque I'm Your Man est sorti, le fait le plus saillant, ça a été que Leonard était en effet maintenant devenu cool face au monde.
For the longest time in my life, he had been a kind of cult figure around the world.
Sylvie trouvait que Léonard était un mythe, notamment en France et en Angleterre et aux États-Unis et au Canada. C'était le contraire, il n'était pas reconnu comme tel.
Comment se fait-il que Leonard Cohen ait autant séduit l'Europe et moins le continent américain dont il était issu, même si sa famille arrivait d'Europe, comme beaucoup de migrants au 19e siècle?
The reason he was, I think, so big in Europe is because we are old countries with a history.
La raison pour laquelle il a plu en Europe, c'est que l'Europe et l'Angleterre, ce sont des vieux pays qui ont un goût pour l'humour noir et une grande tradition littéraire. Alors que les Américains ont peur de la tristesse aux États-Unis, on a un devoir de bonheur, on a un devoir de joie.
In the beginning, his reputation was as the Prince of Despair.
Et d'ailleurs, il a été surnommé là-bas le Prince du Désespoir. Et il y avait quelqu'un qui avait fait la suggestion de joindre des lames de rasoir pour se trancher les veines avec les albums.
Rappelez-nous un peu l'histoire de la famille Cohen à Montréal, parce que votre biographie démarre effectivement à comment la famille Cohen s'est installée à Montréal.
L'histoire de la famille de Leonard?
Oui.
Oh oui, he came from a very established Jewish family.
C'est une famille qui vient d'Europe de l'Est en général. C'était des gens très très importants dans la communauté juive, notamment des grands fondateurs de synagogues, ce qui a été le cas de son arrière-grand-père et grand-père, et des gens de la presse et des gens de l'industrie aussi. Il a vécu dans un luxe plus que certain. En revanche, il y a eu une expérience absolument traumatisante, c'est la mort de son père quand il avait 9 ans, ce qui l'a rendu extrêmement mélancolique et ce qui l'a poussé à écrire de la poésie.
Sylvie Simons, depuis combien de temps connaissez-vous personnellement Leonard Cohen ?
I first interviewed him in the 1990s.
Sylvie l'a d'abord rencontré dans les années 90 quand il était bouddhiste zen, loin dans les montagnes au-dessus de Los Angeles. Et ensuite, elle l'a revu en 2001 à Londres parce qu'il venait faire la promotion d'un album qui s'appelait Ten Years Song. Et ils ont pu parler extensivement et beaucoup pendant 3 jours.
Ce livre, cette biographie, vous l'avez commencé avec ces 3 jours d'entretien ou vous êtes rencontré régulièrement avec Leonard Cohen au cours de ces dernières années?
Non, what happened is I decided after this 3-day interview.
Sylvie a décidé après ces 3 jours où il y a eu tant de mots charmants et intelligents et tant de choses brillantes qui ont été dites par lui que en fait, il n'avait pas vraiment répondu aux questions qu'il avait élégamment éludées. Donc elle a décidé d'écrire un livre pour comme elle dit, le coincer.
Alors je vous propose d'écouter un autre titre que vous avez choisi, Sylvie. Le titre, c'est Stories of the Street.
The stories of the street are mine. The Spanish voices laugh. The Cadillacs go creeping now through the night and the poison gas. And I lean from my windowsill in this old hotel. Chose. Yes, one hand on my suicide, one hand on the road. I know you've heard it's over now, and war must surely come. The cities, they are broken in half, and the middlemen are gone. But let me ask you one more time, oh children of the dust, all these hunters who are shrieking now, or do they speak for us? Still that were coming home to me. Oh lady with your legs so fine, oh stranger at your wheel, you are locked into your suffering and your pleasures are the seal. The age of lust is giving birth, both the parents ask the nurse to tell them fairy tales on both sides of the glass. And now the infant with his cord is hauled in like a kite. Come with me, my little one.
us grass and apples there and keep all the animals warm. And if by chance I awake at night and I ask you who I am, or take me to the slaughterhouse, I will wait there with the lamb. With one hand on hexagram, one hand on a girl, I balance on a wishing well that all men call the world. We are so small between the stars, so large against the sky, and lost among the subway crowds, I try to catch your eye.
Stories of the Street, c'est extrait du premier album de Leonard Cohen. On est en 1967. Est-ce qu'en 1967, Sylvie Simon, vous êtes déjà au fait de l'existence de Leonard Cohen ou ça viendra plus tard?
Non, en 68 pour moi.
En 68,
ça va. Un petit peu plus tard. I was a young girl in London, in love with the Beatles and all the English. And one day,
au hasard de l'achat d'une compilation à Londres, elle était Beatlemaniaque, elle adorait la musique anglaise, et il y avait une compilation CBS d'artistes nord-américains, parmi lesquels Dylan, Simon & Garfunkel et Leonard Cohen.
But when I heard Leonard Cohen sing, I was bouleversée. I was.
Et à l'écoute, elle a été complètement bouleversée, elle a été très touchée, elle a voulu comprendre le mystère qui émanait de la création de Leonard Cohen.
Pour faire ce livre, vous avez eu accès à des archives privées de Leonard Cohen, ça veut dire que vous étiez en contact avec la famille, avec des proches. Qu'est-ce qui a fait qu'Adam Cohen vous a fait confiance, son fils ?
I think that he knew I was writing the book with diligence.
En fait, ce qui lui a plu, ce qui a permis que ça se fasse, c'était le fait qu'elle a écrit avec une grande diligence, qu'elle s'est accrochée au projet, qu'une centaine des amis de Leonard Cohen l'ont appelé en lui disant « il y a cette femme qui veut tout savoir sur Leonard Cohen en détail ». Le temps a fait qu'en plus, sachant qu'elle n'allait pas abaisser le débat et faire une espèce de l'avis un petit peu incolore et insipide, avec le temps, ça a marché entre eux. La confiance a encore augmenté.
Leonard was not initially jumping up and down with enthusiasm at having a book on him.
Il n'était pas absolument enthousiaste à l'idée d'avoir un livre. Il n'a pas été incorrect parce qu'il était élégant jusqu'au point de dire non, mais au moment où ils se sont rencontrés, il allait bien, il était surtout guéri de cette dépression qu'il charriait depuis l'enfance. Donc, quand ils ont creusé pour trouver un petit peu dans son passé des questions, des réponses, il oscillait d'une humeur qui allait de absolument ravi à « ça, je préfère ne pas en parler », mais finalement, ils ont tout abordé et ils ont vraiment communiqué.
Vous avez rencontré beaucoup de gens proches de Leonard Cohen. Il y en a un que vous n'avez pas vu, c'est Phil Spector, parce qu'il était en prison pour meurtre. Il y est toujours. Qui sont les gens dans l'entourage de Leonard Cohen qui ont été le plus ouverts?
There were many people who opened doors, opened things that I never could have imagined that were there.
En fait, il y a plus d'un ami qui a été important. Ils ont été très très nombreux, les gens qui ont eu un apport dans le livre et qui ont donné des informations. Mais le plus intéressant, c'est la dernière personne, c'était l'ex-fiancée qui était l'actrice Rebecca de Mornay. Contrairement aux autres fois, aux femmes qu'il méprisait en général, et même à la mère de ses enfants qu'il n'avait pas voulu épouser, il lui a demandé de l'épouser. Et il lui avait même dédié une chanson dans l'album The Future. Mais tout d'un coup, il est parti dans un monastère vers ce moment-là. Et elle dit de manière amusante, je suis donc une femme qui fait partir les hommes dans les monastères. C'est pas très bon pour ma réputation, ni comme femme, ni comme comédienne. Il a toujours trouvé qu'il ne se commettait pas, il ne s'imprégnait pas dans le monde musical.
Il ne s'investissait pas.
Ni dans le show business, voilà, il ne s'investissait pas parce qu'il trouvait que c'était une corruption de sa poésie. Du fait de ça, il est allé vivre avec un vieux moine pour essayer d'extraire et d'arracher toute la douleur qu'il avait en lui.
D'ailleurs, vous le dites dans votre livre, Sylvie Simons, il dit que le mariage est, comment dire, un monastère bien plus compliqué. C'est un exercice beaucoup plus difficile que de rester des heures assis et faire zazen avec le moine Roshi.
Beaucoup plus compliqué, oui. Very much.
Ouais, c'était beaucoup plus compliqué pour lui d'être marié que de cohabiter avec un vieux moine.
Donc il n'y a pas de dogme, il n'y a pas véritablement de culte, on ne s'adresse pas à une divinité. Donc ça ne tombe pas sous le coup de la description d'une religion. C'est simplement une forme d'engagement à une communauté au sein de laquelle on vit, d'être extrêmement attentif, conscient de ses propres sentiments et des sentiments des autres. C'est ce type d'activité, plutôt qu'une activité que l'on pourrait associer avec des religions. En d'autres termes, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de croyance.
There's only activity.
Il y a simplement des activités.
It's four in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You'd been to the station to meet every train. Then you came home without Lily Marlene. And you treated my woman to a flake of your life. When she came back, she was nobody's wife. Well, I see you there with a rose in your teeth. One more thin gypsy thief. Well, I see Jane's away. She sends her regards. And what can I tell you, my brother, my killer? What can I possibly say? I guess that I miss you. I guess I forgive you. I'm glad you stood in my way. If you ever come by here for Jane or for me, well, your enemy is sleeping. His woman is free, yes, and thanks for the trouble you took from her eyes. I thought it was there for good, so I never tried. You plan to go clear.
Famous Blue Raincoat, c'est encore un titre que vous avez choisi, Sylvie Simons, une chanson de Leonard Cohen qui était sortie en 71 sur l'album Songs of Love and Hate. C'est un très beau texte qui parle probablement d'une liaison à trois, j'allais dire d'une lésion, mais c'est presque ça. Au début, on pense que Leonard Cohen écrit à une femme, mais il écrit peut-être à un homme, l'autre homme.
I love the song and I remember mentioning it to Leonard Cohen how much I loved the song.
Sylvie aime cette chanson et elle l'a dit à Leonard Cohen, qui lui a dit qu'il ne l'aimait pas, parce qu'il ne la trouvait pas finie, il n'en était pas très content. Sa mère aimait la chanson parce qu'elle était dans le style un peu vieillot, il n'y avait pas les synthétiseurs qu'il y a eu depuis. C'est une chanson sur un ménage à trois ou un triangle amoureux. Lui, qui était un séducteur et qui pouvait avoir beaucoup de femmes dans sa vie, vivait toujours avec cette espèce d'inquiétude de savoir qu'il y aurait certainement quelqu'un d'autre qui viendrait et qui séduirait la personne et qui la déroberait dans sa vie. Il craignait toujours un étranger supplémentaire, disons.
Évidemment, Leonard Cohen et les femmes. Là, j'ouvre une page et on est à l'hôtel Chelsea, le Chelsea Hotel de New York. Et Leonard Cohen dit ces mots que vous retranscrivez dans ce livre. Il parle de Janis Joplin et il dit « Elle ne me cherchait pas, elle cherchait Chris Christopherson. Je ne la cherchais pas, j'étais à la recherche de Brigitte Bardot. Mais faute de mieux, nous sommes tombés dans les bras l'un de l'autre. » Est-ce que ces confidences vous ont montré que c'était un grand amoureux des femmes ou c'était simplement un grand désespéré qui cherchait un petit peu de bonheur au fur et à mesure que la vie lui présentait des petits cadeaux ?
Most of the things you said were true. Not just one of those things.
Alors, la plupart des choses que vous avez avancées sont en effet exactes. Les femmes étaient un remède pour lui, notamment un remède à la dépression. Les femmes étaient vitales. D'abord, il a vécu dans une maison de femmes, c'est-à-dire entre sa mère et sa sœur aînée. Il a été très, très choyé, très protégé par elles. Il aimait les femmes autant horizontalement que verticalement. Il avait beaucoup d'estime pour elles.
He had a woman manager at the start of his career.
Sa première manager était une femme et Judy Collins a été extrêmement importante puisque c'est elle qui a chanté Suzanne avant qu'il devienne chanteur et l'a fait connaître. Dès qu'une femme arrivait dans une quelque part, son œil s'allumait et il lui donnait toute la présence qu'il pouvait lui donner et il devenait complètement différent.
Quand vous avez rencontré Leonard Cohen dans les années 90, est-ce que son petit œil s'est allumé en vous voyant arriver ?
Oui.
Vous avez succombé ?
Non.
Pourquoi ?
Like a policeman, I was on duty.
Elle était en service comme un flic.
Pourquoi je n'ai pas envie de vous croire ? Vous n'avez pas succombé à Leonard Cohen, c'est étrange. J'ai bien compris que vous étiez en service, mais vous l'avez rencontré tellement de fois par la suite. Après, c'est devenu un ami peut-être. Et les amis, c'est vertical.
That's true. It's funny when my book came out in Canada.
Oui, en effet, c'était vertical. Quand le bouquin est sorti à Montréal, il y avait en même temps un autre bouquin qui est sorti sur un portraitiste célèbre qui a eu une liaison avec la personne qui avait fait le bouquin. Et l'éditeur a demandé à Sylvie pourquoi elle avait pas cédé. Elle disait je l'ai tellement vu, je m'en suis tellement absorbé, il a tellement vécu en moi que je eu l'impression de faire l'amour avec moi-même. On peut utiliser d'autres mots, mais enfin, on utilisera cette tournure-là.
Qu'est-ce qui vous a le plus marqué de l'empreinte de la vie de Leonard Cohen ? Parce que 600 pages sur quelqu'un, c'est l'histoire de toute une vie, même si ce n'est pas la seule biographie que vous ayez écrite.
I think that he was 100% Leonard Cohen every time you saw him.
Sylvie est convaincue qu'il était 100% Leonard Cohen 24 heures sur 24. Sa manière de parler lentement, le choix des mots, le choix des phrases, le choix des termes qui lui permettaient aussi de ne pas dire la vérité et d'éluder les questions. Il était toujours, chaque fois qu'elle l'a vu, il était toujours impeccable, toujours en costume. Contrairement à beaucoup de personnes du show business qui ne sont pas forcément elles-mêmes ou se laissent aller, il lui restait absolument constamment lui-même.
Est-ce que Lou Reed était très Lou Reed ? Est-ce que Tom Waits est très Tom Waits ? Est-ce que Frank Zappa était très Frank Zappa ? Marianne Faithfull, très Marianne Faithfull ?
Tom Waits is very interesting. I found that
Tom Waits était très très intéressant. Il était ravi de faire un petit numéro en répondant, mais en fait, elle s'est rendue compte que chaque fois qu'il disait la vérité, il mettait la main devant sa bouche. Donc c'était un moyen de savoir.
Frank Zappa, yes, he was probably 100% Frank Zappa, but
Quant à Zappa, il était 100% Zappa, mais il était quand même un petit peu cinglé, parce qu'un jour, elle est venue chez lui et il était en train d'explorer des accords qui permettaient d'envoyer les gens assez vite au sanitaire. C'est les accords. Je pense que d'ailleurs, ce sont les infrasons, c'est les notes très très graves en général. Mais en revanche, c'était un très gentil père et un très gentil époux.
Moi, je pense qu'un pessimiste, c'est quelqu'un qui attend la pluie. Et moi, je suis complètement mouillé, complètement mouillé. Je n'attends pas la pluie. Nous sommes dans une catastrophe. Ça ne vaut pas la peine d'attendre la catastrophe. Nous sommes dedans. Ça, c'est le flood.
C'est le déluge.
Le déluge. Ce n'est pas après moi, c'est avec moi.
If it be your will that I speak no more, and my voice be still as it was before, I will speak no more, I shall abide until I am spoken for. If it be your will, if it be your will, let a voice be true from this broken hill. I will sing to you from this broken hill.
Simon, pourquoi vous avez choisi le titre If It Be Your Will?
I chose it because it came from an album called Various Positions.
Sylvie a choisi cette chanson parce qu'elle sort de l'album Various Positions que les producteurs aux États-Unis avaient refusé de diffuser, alors qu'il avait deux chansons qui étaient If It Be Your Will et la fameuse Hallelujah. Dylan a demandé à Cohen combien de temps, parce qu'il trouvait que ça, Hallelujah, ça ressemblait à, et celle-là aussi ressemblait à ses chansons. On lui a demandé combien de temps ça lui avait pris pour écrire ça, et Cohen lui a répondu 10 ans. 15 ans. Et Cohen a demandé à Dylan combien de temps ça te prend pour écrire une chanson, et Dylan a dit 15 minutes.
But also it was a time that was very, very dark for Leonard.
C'est une période très sombre de son existence. Pendant 5 ans, il est resté éloigné de la musique. Il est extrêmement sombre. Il a écrit des psaumes. Il a écrit un livre de poèmes et de psaumes. Il était absolument désespéré et ça se sent dans cette chanson-là notamment.
Dans votre livre, Leonard Cohen vous dit qu'en fait, ce titre, c'est une prière. Il n'est pas encore dans sa période moine zen bouddhiste, mais je veux quand même vous lire le contenu de Books, de Book of Mercy. Il dit « Que ta pitié se répande en enfer, sur tous ces cœurs en flammes, si c'est ta volonté de nous faire du bien. » À quel moment Leonard Cohen rentre en contact avec Roshi, qui est ce petit japonais un peu rondouillard, qui est né en 1907. Leonard Cohen s'en est beaucoup occupé de ce moine qui était son maître, hein, son gourou. Il l'amenait chez le médecin, il faisait la cuisine, il faisait chauffeur, il faisait à peu près tout dans les années 90. Comment Leonard Cohen rencontre ce monde-là? Parce que c'est quand même assez éloigné des traditions juives dans lesquelles il est né.
They had met actually around 1970.
Il l'a rencontré en 1970. Il avait un bon ami en Grèce, à Hydra, l'île dans laquelle il habitait parce qu'il détestait Londres, donc il avait préféré habiter dans cette île en Grèce. Et cet ami poète se mariait et l'officier en zen était Roshi. Et il a tout de suite aimé Roshi parce que Roshi était un homme qui avait des faiblesses, des défauts et des tares. C'est-à-dire que par exemple, il a dit l'alcool est très très mauvais et il a pris une bouteille de saké, you said? Yeah, c'est une bouteille de saké. I thought it was redzin or something. Il a pris une bouteille de saké et il s'est immédiatement bourré. Donc il a très très vite trouvé qu'humainement c'était formidable. Il a dit ce type-là est mon genre et c'est resté son maître toute sa vie en fait, de 70 jusqu'à la fin.
He would go to the from about 1970. He would go to the monastery quite regularly.
En fait, à partir de 1970, il y est allé par période d'à peu près 2 mois, plusieurs fois. Il n'y allait pas à plein temps. C'est après la tournée de l'album Future qu'il est resté 5 ans et demi.
It's interesting. He was telling pretty much all the press or letting them believe that he left the monastery finally because he was cured of depression.
Il a dit à la presse qu'il avait été guéri de sa dépression. Il a avoué à Sylvie en revanche que non, justement, ça le déprimait. C'est pour ça qu'il a quitté le lieu et il est parti en Inde où il a trouvé un autre maître qui l'a guéri de sa dépression.
Donc c'est en Inde qu'il a trouvé le sens de sa vie, c'est ça?
Yes, but the teacher in India, Ramesh, said to him.
Oui, bien sûr, mais le maître Ramesh en Inde lui a dit. Écoute, tu as quand même investi 30 ans de ta vie avec Roshi, donc je n'en prends que la moitié de la guérison.
Vers la fin de sa vie, Leonard Cohen fait des déclarations qui des fois dépassent un peu peut-être ses intentions. Au New Yorker, il dira « je suis prêt à mourir » et puis après il faudra qu'il fasse un démenti. Oui, il est prêt à mourir, mais enfin, il a quand même l'intention de vivre éternellement. À partir de 80 ans, on a le droit de parler de la mort avec plus de confort peut-être.
Leonard was always comfortable talking about death.
Il était très à l'aise avec l'idée de la mort et Sylvie lui a demandé un jour à propos d'une chanson non terminée, laquelle il mourrait d'envie de finir et puis elle s'est excusée. Non, non, pas du tout, on peut parler de la mort et il craignait pas l'idée de la mort. En revanche, à la sortie de l'article du New Yorker qui parlait de son rapport à la mort, il a dit écoutez, non, il a fait une conférence de presse et il a dit non, non, je suis pas prêt à mourir et je vais jamais mourir, j'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas.
Est-ce qu'il avait des regrets?
I didn't sense that he did. When I talked about the past and things like that, he would say.
Il ne vivait pas dans le passé, il ne tenait pas au passé, il lui disait non, non, chérie, là-bas, j'y vais pas. À la limite, j'y vais plus. Ce qui est très, très zen, il vivait vraiment dans le moment et il a travaillé jusqu'à l'extrême fin.
On termine cet entretien avec le titre Anthem, qui est sorti sur l'album The Future en 92, qui était le 9e album studio de Leonard Cohen.
Ah, oh, j'adore cette chanson.
Donc, vous les aimez toutes.
This is a song. That probably took him the longest time to write.
Ah, c'est une chanson qu'elle adore parce qu'il y a mis plus de temps que toutes les chansons, notamment même plus que Alléluia. Et notamment pour sortir cette phrase extraordinaire qui est « Quand il y a une fêlure, c'est là que la lumière peut entrer ». C'est donc de lui. C'est la version exacte qu'il souhaitait parce qu'il l'avait essayé sur d'autres albums et il ne voulait pas qu'il y ait la moindre trace de mensonge ou de fausseté, qu'il n'y ait pas la sincérité la plus totale. C'était un moment de sa vie où il cherchait en même temps la perfection absolue et il était bien conscient du fait que la perfection absolue n'existe pas.
J'ai travaillé à mon ouvrage, j'ai dormi mon sommeil, je suis mort à ma mort et maintenant je peux m'en aller.
Non, pas non. Du tout.
Voilà. Mes chansons sont très très gaies. parce que les pas... vraiment. Ce sont vraiment, aux bases, les chansons sont des plaisanteries.
The birds, they sing at the break of day. Start again, I heard them say. Don't dwell on what has passed away.
That's how the light gets in. gets in. That's how the light gets in.
Sylvie Simon, c'était notre invitée pour parler de cette magnifique biographie qu'elle a écrite sur la vie de Leonard Cohen, Amy Oman. Elle était traduite par Michel Mella. On termine cette émission avec trois nouveautés, du nu jazz anglais ou nu jazz, de la rumba congolaise et le prochain album de Blik Bassi attendu au mois de mars. Leur nom, Nubian Twist. Alors question, qui sont ces 10 musiciens originaires de Leeds, basés à Londres, tournés à droite? Ce sont des aventuriers qui agissent comme des extracteurs de jus. Oui, des extracteurs de jus, ils récupèrent l'essentiel du jazz, de la soul, du hip-hop, du dub, pour proposer une musique qu'on va dire détox. Leur premier album s'appelle Jungle Run et parmi les invités, Maître Tony Allen, batterie, Fela, papa, et Mulatu Astatke, Ethio Jazz, pionnier, autre papa que l'on retrouve sur ce titre, Addis to London.
It's going to be a different sound, man. Not a lot of jazz guys, jazz things, please don't use these rhythms. But you know, like the singers, Malis, the Senegalese, they use it for dancing. I tell you, they're gonna love it.
Nubian Twist sur RFI dans les musiques du monde. L'album s'appelle Jungle Run. La sortie est prévue le 15 février. Nostalgic Congo, Congo avec un K, est une compilation de 23 morceaux qui raconte une partie de l'histoire de ce pays qui est une véritable pépinière de talent et qui aura vu et entendu la musique des marins cubains qui arrivaient par cargo. La rumba afro-cubaine s'ancrera dès les années 30 et restera l'un des fleurons ethno-musicaux du XXe siècle. Les candidats du jour s'appellent Isaya Mwinamo et Tom Miti. Ils interprètent Mbenzi Tina. C'est du Swahili.
Kila siku dina wangu unanisumbua, kila nikija kwenu sikuoni kamwe. Kila siku dina wangu unanisumbua, kila nikija kwenu sikuoni kamwe. Sema leo dina kama unipeni unambie wazi nisiangaike, sema leo dina kama unipendi, unambie wazi nisiangaike. Yeyeye sheri, yeyeye dina, yeyeye kweli wanisumbua. Yeyeye sheri, yeyeye dina, yeyeye kweli wanisumbua. Inanipigia inje ya nyumba yenu. Hata mimi dina nimeanza kukonda kwa ajili ya mbua nyingi na baridi. Hata mimi dina nimeanza kukonda kwa ajili ya mbua nyingi na baridi. Yeyeye sheri, yeyeye dina, yeyeye kweli wanisumbua. Yeyeye sheri, yeyeye dina, yeyeye kweli wanisumbua. Kwenu sikuoni kamwe, kila siku dina wangu unanizumbua, kila nikija kwenu sikuoni kamwe. Sema leo dina kama unipendi, unambie wazi nisiangaike. Sema leo dina kama unipendi, unambie wazi nisiangaike. Yeyeye sheri, yeyeye dina, yeyeye kweli wanizumbua. Yeyeye sheri, yeyeye dina, yeyeye kweli wanizumbua.
On termine cette émission avec le très attendu album de Blik Bassi intitulé 1958, qui rend hommage au héros de l'indépendance camerounaise Ruben Niobe, surnommé Mpodol, celui qui porte la parole des siens en langue bassa. Morceau choisi Ngwa, l'ami. Nouvel album de Blik Bassi intitulé 1958 sortira le 8 mars. Il sera en concert à Paris le 15 avril à La Cigale. Donc Blik Bassi, Nostalgic Congo, Nubian Twist et Leonard Cohen étaient à l'affiche de cette émission. Toutes les coordonnées sont sur la page d'accueil de Musique du Monde, sur le site musique.rfi.fr et sur les réseaux sociaux où on fait de très jolies photos. À demain, si vous le voulez bien. Tocadam. Why?